Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Anissa El Jabri.
Mardi Politique, deuxième partie. Nous accueillons cette fois-ci Pierre Laurent, sénateur PCF de Paris, secrétaire national du Parti communiste. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés, toujours Philippe Onillon pour l'AFP et Lilian Alemania pour Libération. Bonsoir à nouveau. On va avec vous, Pierre Laurent, parler des municipales, de votre stratégie, surtout qui n'est pas la même que celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant tout cela, un mot sur l'Ukraine. Vladimir Poutine a donc signé aujourd'hui un traité rattachant ou annexant, vous nous direz ce que vous en pensez, la Crimée à la Russie, et ça avec effet immédiat. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis condamnent. Barack Obama veut une réunion des dirigeants du G7. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette décision de la Russie, Pierre Laurent?
Je crois d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les conditions de cette annexion sont extrêmement préoccupantes. Et en même temps, ça ne dédouane pas les autres grandes puissances internationales, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, d'avoir accompagné un engrenage extrêmement inquiétant. On a nourri des deux côtés cette escalade. Et aujourd'hui, on se trouve...
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Ben, je pense qu'il fallait, dès le départ, et il le faut toujours d'ailleurs, il faut revenir au plus vite à une discussion globale. Il faut peut-être envisager des mesures que visiblement personne n'envisage. C'est plutôt d'avancer vers des mesures de démilitarisation de la région plutôt que des mesures de confrontation militaire grandissante.
Mais ça, est-ce que Vladimir Poutine serait d'accord?
Mais pour le moment, ni Vladimir Poutine, ni ceux qui poussent l'OTAN à pousser les feux de sa présence dans la région, n'y conduisent. Et évidemment, ça nourrit cet engrenage. Donc je pense qu'il faut... Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut retourner le plus vite possible à un processus démocratique qui donne la parole aux Ukrainiens. Parce que depuis les changements politiques, et évidemment en plus maintenant avec ce référendum qui a été organisé de toutes pièces par Poutine, eh bien les Ukrainiens sont dessaisis du pouvoir de donner leur avis sur le destin de l'Ukraine. Donc on a besoin de retrouver les conditions d'un processus démocratique qui permette aux Ukrainiens de s'exprimer sur l'avenir de leur pays.
Alors, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a fait planer une menace. Il dit que la France pourrait envisager d'annuler la vente de navires militaires français Mistral à la Russie. Et c'est un contrat qui est aussi important pour l'emploi au chantier naval de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne
mesure? C'est vrai que la France serait bien inspirée. La France, qui est une puissance qui vend beaucoup d'armes à beaucoup de monde dans le monde, serait bien inspirée de réfléchir à la manière dont elle vend des armes. Et peut-être que quand on a à prendre des mesures d'embargo, si on veut empêcher des escalades militaires, c'est peut-être sur les ventes d'armes qu'il faut d'abord réfléchir. Ceci étant dit, ce qui vaudrait dans ce cas-là devrait valoir pour la France dans beaucoup d'autres cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres régions du monde où on vend des armes sans qu'on sache très bien à quoi elles sont utilisées. Ceci étant dit, je pense que nous ne sortirons pas de la crise ukrainienne par une escalade de sanctions uniquement contre Poutine et contre la Russie. Il faut, je le répète, il faut réouvrir la discussion politique sur l'avenir de toute la région.
Bon. Revenons à la politique intérieure. Vous étiez dans la rue tout à l'heure contre le pacte de responsabilité à l'appel de nombreux syndicats, notamment EFO et la CGT. Un appel à la grève et une manifestation si près d'un scrutin, c'est du jamais vu. Est-ce que c'était vraiment le bon timing quand même?
Mais nous sommes face à un gouvernement qui a décidé d'accélérer l'adoption du pacte de responsabilité. Et on sait très bien qu'il se prépare à un calendrier qui, dans la foulée des élections municipales, va précipiter l'adoption de ce pacte de responsabilité. Il a imposé lui-même un timing de discussion avec l'aide du MEDEF pour obtenir le plus rapidement possible, sans véritable discussion dans le pays, sans aucune discussion au Parlement pour le moment, l'adoption d'un relevé de conclusion qu'on va nous présenter comme maintenant incontournable. Donc il est normal que la riposte syndicale s'organise, et il faudra prendre, moi je crois, d'autres initiatives politiques. Nous organisons par exemple, nous sommes en train de préparer avec tout le front de gauche, mais beaucoup d'autres personnalités syndicales, politiques, associatives, une grande marche contre l'austérité et le pacte de responsabilité le 12 avril prochain. Parce que cette politique est une impasse et qu'il nous considérons que s'engager encore plus dans cette voie-là, c'est une fuite en avant qui ne résoudra absolument pas les problèmes du chômage.
Vous parlez de grande marche contre l'austérité. Jean-Luc Mélenchon, lui, et même Olivier Besancenot parlent de marche du ras-le-bol de gauche.
Non, les choses sont maintenant claires. Il y a encore une réunion, donc je ne peux pas vous donner le résultat qui se tient ce soir. Il s'est tenu 3 grandes réunions unitaires avec des dizaines de représentants associatifs, syndicaux. Il y a un texte qui est en train d'être finalisé ce soir. Ce texte appelle à une marche contre l'austérité pour l'égalité et le partage des richesses. Et c'est une marche qui vise à créer un sursaut à gauche pour des politiques de justice sociale, des politiques favorables à l'emploi, contre les logiques actuelles d'austérité. C'est ça qui va être le cœur de la marche du 12 avril, c'est maintenant clair.
Mais donc vous espérez encore une inflexion de François Hollande qui a pourtant dit « je suis social-démocrate ».
Non, je crois que malheureusement, nous savons que François Hollande veut s'enfoncer dans cette voie-là. Il veut même, semble-t-il, faire un remaniement pour faire en quelque sorte un gouvernement de combat dans cette direction. Je pense que, or, ce qu'il faut constater, c'est que cette politique ne provoque aucune adhésion à gauche. Donc la question maintenant, c'est pas d'attendre de François Hollande un changement de cap qui ne viendra pas de François Hollande. C'est que les forces à gauche qui ne se reconnaissent pas dans cette politique gouvernementale et qui sont de plus en plus nombreuses doivent maintenant se manifester de toutes les manières possibles, par du dialogue politique, par des manifestations, par des marches, par des appels communs. Il faut que les forces de gauche reprennent la parole pour dire c'est pas cette politique pour laquelle nous avons voté.
Pierre-Laurent, il n'y a pas que la gauche qui ne se reconnaît pas dans cette politique. Marine Le Pen était hier en campagne à Sorgues, dans le Vaucluse.
Je vois pas le rapport entre nous et Marine Le Pen.
Écoutez, voilà ce qu'elle a dit.
Je sais même pas pourquoi ils osent encore mettre social dans le nom de leur parti. Qu'est-ce qu'il y a de social dans la politique qui est menée par les socialistes? Mais je veux dire qu'ils changent de slogan. Moi, je leur en propose un parce que ça leur va comme un gant. Mort aux pauvres.
Cette formule, ces mots, vous en pensez quoi? Vous pourriez les reprendre?
Mais je connais par cœur la démagogie du Front National qui essaye de surfer sur la souffrance sociale pour derrière diviser les travailleurs entre eux, les opposer les chômeurs à ceux qui ont du travail, les immigrés qui ont du travail à d'autres qui n'en ont pas, et au lieu de désigner les responsabilités politiques et les responsabilités de la finance, du capital dans le système actuel. Donc cette démagogie du Front National ne change rien à ce qui nous conduit dans la bataille. C'est d'être fidèle finalement aux valeurs de gauche et de valeurs desquelles le gouvernement ne cesse de s'éloigner malheureusement tous les jours.
Jean-Luc Mélenchon lui dit que François Hollande est responsable de lois scélérates. Est-ce que vous reprendriez cette formule-là?
Non, mais... Enfin, je pense qu'il faut pas employer des mots qui sont parfois de, je sais. Ce qui est certain, c'est que la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui est une politique qui n'a pas été voulue par ceux qui ont élu François Hollande, premièrement. Deuxièmement, ces décisions sont prises sans véritable débat démocratique. François Hollande a proposé son pacte de responsabilité. Depuis, il répète en boucle que c'est ça qu'il faut faire. On nous a parlé de contrepartie. Le MEDEF a répété à corps et à cri qu'il n'y aurait pas de contrepartie chiffrée. On continue pourtant dans la même voie. On nous dit qu'on va accélérer l'adoption de pacte de responsabilité. On ne sait même pas quand et comment le Parlement va en être saisi et dans quelles conditions. Et tout le monde fait comme si tout ça était adopté, alors qu'on a une politique qu'on a déjà essayé 10 fois, des exonérations de cotisations sociales pour faire de l'emploi, et qui ne marche pas.
Il y a un ministre, Benoît Hamon, qui a repris une de vos revendications, c'est de taxer plus le capital. En même temps, on ne voit pas le président de la République ou Jean-Marc Ayrault reprendre cette idée-là. Qu'est-ce que vous lui dites à Benoît Hamon? Il faut sortir du gouvernement? Il faut nous rejoindre?
Il faut travailler avec nous. Il faut unir nos forces, oui, parce que j'ai dit depuis des mois que plutôt que de nous dire c'est le coût du travail qui est responsable de la crise, j'ai dit regardons du côté du coût du capital. 2013, à nouveau, 39 milliards de dividendes en hausse de 6%. et les dividendes sont supérieurs dans la valeur ajoutée des grandes entreprises à l'investissement. Donc il faut effectivement rééquilibrer quelque chose. Et s'il y a des voix nouvelles, celle de Benoît Hamon et d'autres, qui se joignent à moi pour dire il faut plutôt regarder du côté du coût du capital, c'est tant mieux. Il y a des organisations syndicales qui mènent campagne sur ce thème également. Moi, je dis à toutes ces forces, unissons-nous pour demander une politique qui effectivement ferait reculer le pouvoir de la finance, comme le disait François Hollande, et qui malheureusement ne l'a pas fait.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où en est le rapport de force? La politique, c'est l'histoire d'un rapport de force. Où sont les électeurs? Où sont les idées de gauche? Puisque on a d'un côté un PS qui se centrise, et la protestation, la voix forte, elle est maintenant de plus en plus du côté du FN. Où sont les voix de gauche fortes, puissantes, où est le discours pour peser sur la politique? Il y a un échec. Le PS a gagné les élections il y a peu, et on est déjà dans une politique que vous condamnez. Vous manquez de levier, visiblement.
Non, d'abord, arrêtons de dire que la voix forte vient du Front National. Ça, c'est ce qu'on répète à longueur d'antenne, mais il n'y a aucune voix forte, en vérité, avec des solutions du côté du Front National. Et pour ce qui est des résultats des élections, eh bien, on verra, effectivement, ce qui va se passer dans les urnes. Mais je rappelle, par exemple, que moi, je suis à la tête d'un parti qui a le troisième réseau d'élus locaux de toutes les forces politiques nationales et qui aura à nouveau le troisième réseau d'élus locaux au sortir des élections municipales. Marine Le Pen dirige 5 communes en France avec son parti, mais elle a 10 fois plus de temps d'antenne que moi. Donc ça, c'est une anomalie démocratique.
Pas ici, en tout
cas. C'est une anomalie démocratique qu'il faudra m'expliquer. Mais mettons ça de côté. Pour le reste, il y a effectivement un problème démocratique dans ce pays. Ce n'est pas seulement une question de rapport de force, c'est que les institutions permettent au président de la République, qui a tous les pouvoirs dans le système institutionnel qui marche et qui peut faire marcher sa majorité au pas de ses décisions, de mener une politique qui n'est pas celle qui était attendue par ses électeurs. Et ça, c'est un problème démocratique. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de voix qui s'élèvent dans le pays. Il y en a de très nombreuses. Moi, je vais sur le terrain tous les jours discuter avec les électeurs de gauche. Ils vous disent leur mécontentement sur la politique actuelle. Le problème, c'est que le pouvoir s'en exonère. Et ça creuse un fossé entre le pays et la direction politique du pays qui est extrêmement préoccupant. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans le désarroi, qui ne savent pas comment réagir, mais il y en a d'autres qui agissent, comme on l'a vu aujourd'hui. Et on devrait entendre ces alertes-là au lieu de les mépriser, au lieu de dire mais non, il n'y a pas tellement de gens de ça que il n'y a pas tellement de gens dans la rue. Il n'y en a pas des millions, mais derrière ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, il y a des millions de gens qui s'inquiètent.
Mais le Front de gauche n'incarne pas aujourd'hui une véritable alternative. J'en parle d'opposition de gauche, vous reprenez pas le terme, mais...
Si le Front de gauche porte des idées alternatives, il n'est pas une alternative à lui tout seul.
Mais
nous
il n'est pas vu par les électeurs
forces.
Comme une alternative aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, ça, on verra dans les urnes.
Bon,
on verra dans les urnes. Le Front de gauche, le Parti communiste et le Front de gauche dirigeront beaucoup plus de villes au sorti de ces élections municipales que le Front national.
Oui, mais vous, les communistes, vous dites non au socialisme gouvernemental, on l'a compris, mais pour le socialisme municipal, c'est un peu plus varié. Vous êtes allié avec le PS dans de nombreuses villes. Franchement, vous comprenez qu'on puisse y voir une contradiction?
Oui, je comprends que des gens puissent y voir une contradiction, et pourtant il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quel est l'enjeu pour nous des élections municipales? C'est justement de protéger les politiques publiques locales, les politiques de développement du logement social, de développement des transports publics, de développement des solidarités locales. Pour le faire, nous pensons qu'il faut faire gagner des majorités municipales de gauche dans lesquelles nous entendons peser, mais surtout pas, en tout cas, laisser ces communes dirigées par la droite et l'extrême droite, ou laisser la droite et l'extrême droite reconquérir ces communes. Et il faut mener le débat dans ces majorités municipales. Donc, dans notre bataille contre l'austérité, nous n'opposons pas, nous, le front que nous devons mener au plan national pour nous opposer au pacte de responsabilité, et dans quelques semaines, la bataille qu'il faudra mener au plan européen avec les élections européennes, et les batailles locales que nous menons dans les communes pour protéger ces politiques publiques locales. Et ce que nous avons fait avec nos choix dans les élections municipales, on va le voir dans quelques jours, va permettre à des milliers et des milliers d'élus communistes et du Front de Gauche d'être présents dans les communes pour mener cette bataille.
Alors, on va prendre un exemple, celui de la campagne parisienne. Vous êtes, vous, PC, allié avec les socialistes d'Anne Hidalgo. Il y a à côté de ça une candidate du parti de gauche. Anne Hidalgo semble très réticente à une fusion des listes PS-PC avec le parti de gauche. Et elle dit, en plus, sa formule, c'est « il faut des majorités cohérentes ». Vous comprenez?
Moi, pour le deuxième tour, des élections municipales, ma ligne de conduite, elle sera très claire. Se rassembler contre la droite et l'extrême droite, et se rassembler partout contre la droite et l'extrême droite, et pour ça, créer les conditions du rassemblement le plus large possible des listes présentes à gauche. Voilà, moi, ce qui sera
et
mon
si
cap.
Si Anne Hidalgo ne veut pas fusionner avec votre autre moitié du Front de gauche.
Je vous parle de ce que je dis, moi, le Parti communiste. Mon cap sera celui-là, à travers la France. Et je pense que cette ligne de rassemblement est pour tout le monde la meilleure.
Vous êtes quand même bien rivaux avec Jean-Luc Mélenchon pour cette élection. Il le dit lui-même, il le disait en marge du meeting de Nîmes. Ce sont les élections qui nous départageront.
Oui, mais vous citez Nîmes, justement, nous étions ensemble dans un meeting à Nîmes.
C'était vendredi dernier.
Pour soutenir la liste qui est conduite par ma camarade Sylvette Fayet, qui est une très belle liste, qui rassemble toutes les forces du Front de Gauche, qui rassemble des socialistes qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle du Parti Socialiste, qui rassemble Europe Écologie Les Verts. Et cette liste à Nîmes, effectivement, peut faire un très bon score. Et nous avons des cas de cette nature dans beaucoup de villes de France. Et les forces du Front de Gauche ont été à la bataille unies dans beaucoup de villes. Il y en a d'autres où nous avons fait des choix différents. Effectivement, il va y avoir des résultats des élections municipales et nous en tirerons tous des leçons. Mais le travail dans la durée que nous avons à conduire pour reconstruire une alternative au gouvernement actuel reste absolument nécessaire.
Puis alors, vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que vous êtes bien rivaux pour cette élection? Jean-Luc Mélenchon dit lui-même encore une fois.
Non, je viens de vous dire que non, puisque dans de très nombreuses villes, nous sommes ensemble, et dans d'autres, nous avons fait des choix différents, mais nous allons aussi nous retrouver dans ces villes-là au deuxième tour. Donc, je ne suis pas un rival de mes partenaires du Front de Gauche, bien au contraire.
La ligne de fracture, elle est vieille comme la gauche française. C'est punir quand le PS est au pouvoir et qu'on est plus à gauche et qu'on n'est pas satisfait. La question, c'est l'alliance quand même au second tour ou bien punir le PS pour lui donner une leçon, quitte à faire gagner la droite. On est toujours sur ce débat et c'est bien là la question. Vous n'avez pas, à certains moments, envie de punir le PS après tout ce que vous avez dit, y compris au niveau local?
Bah, écoutez, quand nous avons des centaines de milliers de gens qui ont manifesté depuis un an avec la droite, voire avec l'extrême droite, quand cette menace existe, non, moi je n'ai pas envie de payer ce prix-là. Et la bataille que je mène pour faire changer d'orientation le gouvernement, pour le ramener sur les rails de la gauche, ne passe pas par le fait que je pourrais laisser des villes filer à droite ou à l'extrême droite. Et c'est la logique qui a été la nôtre dans cette élection. Nous essayons de tenir d'un même mouvement l'objectif de battre la droite et de l'extrême droite et de faire valoir dans la gauche des positions d'opposition à l'austérité actuelle pour réorienter ses politiques.
Voilà, merci Pierre-Laurent. Je rappelle que vous êtes sénateur PCF de Paris, secrétaire national du Parti communiste. Merci à nos partenaires Libération et l'AFP. C'est donc la fin de Mardi Politique réalisé par Mathias Golcheny. Rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, même heure.